Michel Azavanicius, bonjour. Donc, vous nous présentez Le Prince oublié, qui sort le 19 février. À beaucoup de faits, il faut dire que dans cette époque un peu morose, ça fait du bien, non?
Oui, ce qui fait du bien, c'est d'avoir un film, je trouve, qui engage à la croyance, pas du tout religieuse, mais l'idée que les choses peuvent arriver, quoi. Voilà, et on a envie de croire à des choses, croire à des histoires, croire à une forme de, pas naïveté, mais je dirais de crédulité, d'ouverture d'esprit, ouais. C'est un film ouvert.
Quand vous étiez jeune, vous étiez rêveur? On vous contait de belles histoires comme ça?
Non, je crois pas. J'ai pas de souvenir de mes parents réellement me racontant des histoires, mais par contre, j'ai des souvenirs de fascination pour le cinéma et puis plus tard pour la littérature. Oui, moi j'adore croire les histoires, mais vraiment j'ai toujours aimé croire et encore aujourd'hui je vois un film, même des films de pas très très grande qualité, mais je peux pleurer très très vite. Ouais, complètement, ouais. Ouais.
Et vous êtes un bon conteur?
Écoutez, alors avec les grandes, j'ai 4 enfants, les grandes elles ont 21 et 16. Avec les grandes, j'inventais un peu plus d'histoires. Les petits, je leur invente, ils demandent toujours à ce qu'on leur invente. Mais c'est compliqué, c'est dur, hein. Tous les soirs d'inventer des histoires, c'est compliqué. Par contre, ce que j'aime bien faire maintenant, c'est je prends un livre et je m'en éloigne. Donc ça les gamins aiment bien, ouais.
Quand on vous a proposé le sujet, qu'est-ce qui vous a attiré à la première lecture du scénario?
Ben, 2 choses. D'abord, le thème de l'enfance comme ça, qui est un thème en général qui est plutôt, qui attire plutôt les films américains. Et donc ça, j'aimais bien l'enfance qui meurt. C'est à la fois très triste et très...
Le passage.
Oui, c'est à la fois très, très triste de se dire... C'est hyper triste. Votre enfant ne sera plus jamais le petit enfant adorable. Vous savez, quand les gens disent « Ah, on ne voudrait pas que ça grandisse ». Mais c'est vrai, il y a un truc comme ça. Donc, l'espèce de beauté un peu mélancolique qu'il y a là-dedans. Et puis, le procédé du film qui fait qu'il y a aussi un défi ou une ambition, plus exactement cinématographique, assez forte, avec beaucoup de spectacles, beaucoup d'effets, etc. Et j'aimais bien le double niveau de lecture, c'est-à-dire d'un côté un truc très très intime, marrant, sympathique et tout, mais avec un fond de mélancolie, et de l'autre côté quelque chose de très spectaculaire, épique, pour illustrer ces enjeux très intimes. Voilà, ça me plaisait beaucoup.
Alors, vous parlez cinéma américain, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher quand même, enfin, pour ma part, référence Roger Rabbit, Truman Show, Toy Story, Inside Out, ça vous va?
Alors, non, mais ça me va pas, parce que, évidemment, d'être dans des films de cette ambition-là, de cette qualité-là, enfin, là, vous venez de me parler, vous avez cité 4 chefs-d'œuvre. Donc, alors, c'était très excitant de se dire, on va dans cette famille-là, on va dans ce truc-là, c'est-à-dire, effectivement, des films qui sont à la fois pour les enfants, mais également pour les parents, et alors vraiment pour les grands-parents, là, c'est-à-dire, je me suis rendu compte que les grands-parents, ils avaient ce rapport à l'enfance qui passe. Je pense que
encore plus fort, finalement.
Mais oui, parce que le rapport enfant-grand-parent, c'est la plus belle relation qui soit au monde, si vous voulez mon avis. C'est-à-dire qu'il y a tout.
Privilégié.
Totalement privilégié. C'est-à-dire qu'il y a tout l'amour qu'on a pour les enfants, débarrassé de toute volonté de modeler l'enfant, toute volonté. Les grands-parents sont en admiration totale devant leurs petits-enfants, beaucoup plus qu'ils ne l'étaient devant leurs enfants. Et donc, c'est une très, très, très belle relation. Et puis, les enfants, ils voient bien qu'il y a tout l'amour du monde et aucune contrainte. C'est une liberté totale. Donc là, c'est vrai que les grands-parents aiment beaucoup, beaucoup le film. Et pour en revenir à ce que je disais, oui, donc, à la fois, on était hyper content d'être dans... Enfin, moi, j'étais hyper content d'être dans cette catégorie de film, cette ambition de film. Et en même temps, on n'a pas les budgets des films américains. C'est-à-dire que tout d'un coup, il fallait être très malin, très débrouillard pour... pour passer la barre, quoi, si vous voulez, parce qu'effectivement, on parle de budget. Là, vous parlez de budget qui valent à 10 fois le budget de mon film, quoi. Donc voilà. Mais c'est pas grave, au final. Enfin, je veux dire.
Mais les Américains vont être jaloux quand même. Parce que
je pense que
voir le résultat, c'est...
Ils vont être jaloux du prix que ça a coûté, ça c'est sûr. Mais, oui, le film va sur ce terrain-là, de toute façon. Ouais. Non, je pense que les Américains sont très forts. Les films Pixar, c'est quand même du très, très, très haut niveau. Voilà. Et puis, on n'est pas, encore une fois, je ne crois pas qu'on n'est pas en compétition. Les films Pixar, c'est du... Là, on parle de films qui sont, à part Roger Rabbit, on parle de 100% animation. Là, nous, on est un film qui mélange un peu tout. Mais qui n'est pas un film d'animation à proprement parler. Ouais.
Alors James Cameron, plutôt, avait dû postposer Avatar, je crois, le tournage, parce qu'il se rendait compte que techniquement, il n'était pas prêt. Est-ce que vous, de votre côté, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de post-prod, etc., est-ce que vous avez dépassé des limites au niveau technique ?
Il y a quelques trucs sur lesquels on a été vraiment, et je le dis,
sans fausse modestie.
Oui, mais parce que c'est même pas moi qui l'ai fait, mais extrêmement malin. Il y a vraiment des petits génies du numérique, des petits génies de l'animation, des gars qui sont, c'est des gamins, et ils vous trouvent des solutions et des choses pour sortir des images. Honnêtement, je pense que qui sont très 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 compliquées à faire si on veut les faire, dans les règles de l'art. Mais là, tout d'un coup, les gars, ils trouvent des solutions. Franchement, j'étais épaté. Et d'ailleurs, des fois, je me dis, vu la manière dont nous, on les a fait, si les Américains veulent faire un remake et qu'ils veulent faire exactement la même chose, ça va leur coûter un bras. Alors que nous, on les a fait vraiment... James Cameron, c'est un génie de la technique et de la technologie et tout ça. Moi, j'ai un rapport beaucoup plus ludique et simple aux histoires. Je suis pas du tout à ce niveau de technologie. Donc, je vais vous dire, je me suis même pas posé la question. Je me suis dit, on y va et l'histoire me plaît et je la raconterai avec les moyens que j'aurai. Et je trouve qu'on s'en sort vraiment très bien. Le film n'a pas à pâlir. Honnêtement, l'argent se voit à l'image. Quoi.
Alors bon, ça fait à peine deux mois et demi de tournage en été 2018. Et quoi, un an de post-prod, c'est énorme. Quoi. Enfin, vous aimez bien les post-prod, parce que je suppose que pour The Artist, c'était pas mal non plus. OSS aussi.
C'était très rapide. The Artist a été un film très rapide à faire. Tourner, monter très, très, très vite. La chose la plus problématique était la musique, parce qu'il y avait tout d'un coup... 1h30 de musique à faire dans un temps record. Puisque The Artist, pour vous dire, j'ai fini de tourner en septembre ou octobre, et au mois de mai, on était à Cannes avec le film fini, donc ça a été très vite. Là, effectivement, un an de montage, post-production, effets spéciaux, etc. On aurait pu être prêt avant, au prix de quelques sacrifices, mais en fait, comme on connaissait notre date de sortie, on a été très...
À l'aise.
Ouais. En fait, on a essayé d'utiliser au mieux le temps, en fait, pour avoir le maximum de choses et que ça coûte le minimum d'argent. En fait, on s'est organisé en fonction du temps qu'on avait et je pense qu'on a pris des bonnes décisions. Ouais.
Omar Sy, il faut quand même en parler.
Ouais,
bon, en France, c'est la star hollywoodienne. Ouais. C'est dans cette optique-là que vous l'aviez choisi ou ça a facilité à se trouver devant un écran vert ou...
Non, c'était pas. Non, parce que ça, c'est pas. Je dirais que c'est presque anecdotique. Ce qui compte, ouais. C'est l'adéquation d'un acteur avec le personnage. Là, en l'occurrence, si vous voulez, Omar, c'est vraiment pas un scoop de le dire, il a une espèce de grandeur d'âme, il a une espèce de beauté intérieure et extérieure, mais qui est tangible quand vous le filmez. Et c'est vrai qu'il amène au film une espèce de poésie, une espèce de lyrisme, quelque chose qui est un peu plus grand que la vraie vie, en fait, et que. Dans la partie réaliste du film, puisqu'il y a deux parties comme ça dans le film, il déplace un petit peu la réalité. C'est ce que moi, j'ai aussi essayé de faire dans le filmage du contemporain pour basculer dans le conte, en fait. Et puis, il a cette grandeur d'âme qui fait que ça colle parfaitement au personnage.
Et c'est le film paternel, quand même, aussi. Hein.
Complètement. Mais lui, il a 5 enfants, et moi, j'en ai 4. Donc, si vous voulez, on savait un tout petit peu de quoi on parlait. Mais c'est vrai que l'histoire de ce père qui doit accepter comme ça que sa fille grandisse, c'est un acte de générosité, de faire un petit pas en arrière et de dire bon, bah oui, je ne suis plus, je ne serai plus jamais le héros de ma fille, le prince de ma fille, le modèle absolu, l'homme parfait. Et bien, ça demande un peu d'humilité. Mmh. Et c'est vrai que Omar, il a tellement d'humanité, si vous voulez, que ça colle extrêmement bien. Enfin voilà, c'était l'acteur idéal pour jouer ce rôle-là.
François Damien, ce retrouvaille.
Oui.
Vous l'avez supprimé son accent, là.
Moi, je lui ai rien demandé là-dessus. Hein. C'est, lui, il fait comme. François Damien, si vous voulez. Alors, lui, c'est. Surtout, alors, vous, les Belges, vous connaissez très bien François Lambrouille, donc vous savez qu'il a ce côté. Il peut être mauvais, enfin, méchant, quoi. Il peut être il peut avoir cette fibre un peu comme ça de mauvais génie, de mauvais diable. Et donc, dans le film, il est le mauvais génie, celui qui va vous pousser dans votre tête. C'est d'un côté, vous avez un petit ange, un petit diable, celui qui va vous pousser à faire des conneries, à prendre des mauvaises décisions, à être méchant, etc. Donc, il joue ça. Et puis, petit scoop, il joue pour la première fois sans dentier, parce que d'habitude, il joue avec un dentier. Et puis là, vous allez voir, il a ses vraies dents pour une fois dans un film. Je plaisante, en fait, il a des dents dégueulasses dans le film. Pardon.
Et puis, bon, une jeune découverte, Bérénice Bejo.
Oui. Bah, Bérénice, j'ai toujours un plaisir vraiment constant à travailler avec elle. Et puis, j'aime bien la collaboration qu'on a, en plus du fait de partager notre vie. Mais professionnellement, oui, il y a quelque chose qui s'installe sur la longueur. Et puis, j'ai l'impression, le rôle, pour le coup, j'ai vraiment réécrit pour elle. Et j'ai essayé d'en faire ce personnage un peu stéréotypé des comédies américaines, c'est-à-dire provoquant des situations de comédie, arrivant un petit peu...
Maurice Day, moi ?
Ah, peut-être, ouais, ou je sais pas, Meg Ryan, plus proche de nous, enfin, ou Renée Zellweger, enfin, ce genre de personnage un peu pétillant. Elle me disait, c'est un peu Pepe Miller, le personnage de The Artist, mais... Voilà, avec du son, quoi. C'est-à-dire, c'est un personnage qui vient sauver le héros, en fait, qui est ultra bénéfique. Moi, dans mon esprit, c'est la fée, en fait, celle qui vient et qui règle un peu les... Enfin, qui aide le héros à s'en sortir, en fait, à réussir ce qu'il a à faire. Et effectivement, un personnage qui... moteur de comédie, quoi, très, très frais.
Alors, dernière question. Les cartons,
oui.
Fatalement, c'est une réminiscence... au film muet, des artistes. Vous êtes venu comment de mettre ces cartons sur les bus et les arrêts-bus?
Oui, c'est marrant. En fait, parce que le film est construit comme un conte et il a beaucoup de manières de fabriquer. Il est fabriqué de manière à aller flirter sur ce terrain-là du conte. Et c'est vrai que tout d'un coup, filmer du contemporain et me retrouver avec des pubs, je ne sais pas, Bricorama ou Intermarché, je trouvais que ça nous sortait un peu de l'univers du conte, donc j'ai décidé de détourner ces endroits de la ville où il y a des choses écrites, où il y a des messages qui nous sont envoyés, et au lieu que ce soit des messages commerciaux et publicitaires, j'en ai fait des messages subliminaux, effectivement, qui sont des messages de narration, c'est-à-dire quand le narrateur dit « il était une fois » ou quand il dit « et un beau jour » voilà, donc j'ai détourné ça. C'est marrant que vous disiez que ce soit des artistes, parce qu'une autre personne, au contraire, enfin pas au contraire, mais m'a parlé que c'était une réminiscence de mon dernier film, Le Redoutable, où effectivement, comment dire, à la manière de Jean-Luc Godard, ou en hommage à Jean-Luc Godard, je pouvais écrire sur les murs, voilà, exactement. Ouais.
Un grand merci en tout cas. On rappelle donc la sortie du film le 19 février, Le Prince oublié.
Merci, Michel. Merci.